Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un TGV déraille avant de s'encastrer dans un autre train en circulation. Le choc en Espagne, bilan dramatique et toujours provisoire. 21 morts, des dizaines de blessés. Nous serons en direct de Madrid dans quelques instants. Deux quartiers de Narbonne, en partie évacués hier soir sur décision de la préfecture en raison de fortes pluies qui s'abattent sur la région. Cinq départements du sud sont en vigilance orange. Nous irons à Narbonne dans ce journal. Et de la liesse de Dakar aux larmes de Rabat dans un match électrique. Le Sénégal remporte la CAN 1-0 face au pays hôte, le Maroc, à terre.
Terrible collision, donc collision entre deux trains en Espagne.
Une nuit de profonde douleur, réagit le Premier ministre espagnol après ce drame hier soir entre Malaga et Madrid. Le bilan est extrêmement lourd, toujours provisoire. 21 morts, au moins une trentaine de personnes sont gravement blessées à Madrid. Et en direct, Pierre Chaperon, correspondant RMC, à l'origine du drame. Pierre, le déraillement d'un train.
Oui, les wagons de l'arrière d'un train à grande vitesse opérant entre Malaga et Madrid qui déraille sur une ligne droite et qui percute un autre train lancé à vive allure dans le sens inverse. Il est 19h39 aux alentours d'Adamous, une localité à une trentaine de kilomètres au nord-est de Cordoue en Andalousie quand les faits se produisent. Une sorte de tremblement de terre, un grand coup de frein et des trains plongés dans le noir, des scènes de chaos, un film d'horreur, comme l'ont relaté les survivants de l'accident le plus tragique en Espagne depuis plus de 12 ans.
Et à 7h, Pierre, une inconnue, la cause du déraillement du premier train.
Un accident extrêmement étrange, difficile à expliquer pour les experts, comme l'a dit le ministre des Transports en Espagne, Oscar Puente, un ministre groggy, défait comme le reste du pays ce matin. Le train était neuf, c'est-à-dire qu'il avait moins de 4 ans d'ancienneté et la ligne de chemin de fer avait été rénovée en mai dernier. Une enquête indépendante a été ouverte. Elle devrait durer de nombreuses semaines.
Pierre Chaperon, directeur de Madrid ce matin pour RMC. Jusqu'à 2 mois de pluie en quelques heures seulement, voilà ce qui est déjà tombé cette nuit sur l'Hérault et l'Aude. 2 des 5 départements du sud en vigilance orange, pluie, inondation ou crue. Il est tombé 77 litres d'eau par mètre carré à Narbonne. C'est un record depuis 4 ans. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place ce matin en direct pour RMC Narbonne où deux quartiers ont été préventivement évacués et partiellement évacués sur décision de la préfecture. Mesure de précaution, Jean-Wilfried, en raison de forts cumuls de précipitations.
Oui, c'est ça. Les habitants ont reçu hier soir sur leur portable, Thibault, un message d'alerte leur demandant de quitter effectivement leur domicile, des logements qui sont situés à proximité d'une petite rivière, le REC de Veyre. Plusieurs personnes ont quitté leur domicile. Une soixantaine de personnes a passé la nuit dans le parc des expositions où du matériel était à leur disposition. Ils ont pu passer la nuit, en tout cas, au sec. Ce qui pose problème, effectivement, ici, c'est un petit ruisseau gorgé d'eau ce matin. C'est le REC de Veyre. Pour l'instant, il n'a pas débordé, mais il est sous surveillance par les autorités depuis quelques heures maintenant, notamment par les pompiers. On a vu passer pas mal de patrouilles de pompiers ce matin à proximité de ce petit ruisseau, mais également des patrouilles de gendarmerie. Ruisseau sur surveillance, les transports, les écoles sont à l'arrêt, pas de transport scolaire par exemple, et toutes les routes à proximité de cette petite rivière ont été déviées ou interdites à la circulation.
Jean-Wilfried Forquès, ce matin, Narbonne pour RMC.
RMC 7h04, 49.3 ou ordonnance, on connaîtra ce soir le choix de Sébastien Lecornu.
Un conseil des ministres sera organisé dans l'après-midi. Ce sera le moment pour le Premier ministre d'annoncer son choix pour le budget de l'État. Thomas Becker, service politique RMC, est avec nous ce matin. Thomas, Sébastien Lecornu en passe d'obtenir l'aval des socialistes avec une ultime concession.
Oui, le PS obtient gain de cause sur un des points clés du budget 2026, la surtaxe des grandes entreprises. Les 300 plus grands groupes français contribueront en 2026 à hauteur de 8 milliards d'euros, confirme le gouvernement. En clair, c'est une prolongation d'une taxe créée l'an dernier et qui était à l'origine exceptionnelle. C'est pour ça que les députés et les sénateurs l'avaient supprimée. Le Premier ministre anticipe déjà la contestation des patrons. Dans un courrier, il assure que les entreprises de taille moyenne seront exemptées et que le reste des règles fiscales applicables aux entreprises est stabilisé. Avec cette ultime concession sur sur les recettes. Le Premier ministre a surtout scellé la non-censure du Parti Socialiste. Boris Vallot, patron des députés PS, le confirme ce matin dans Le Parisien. Les annonces vont dans le bon sens et permettent d'imaginer la non-censure. C'est tout ce que cherche le Premier ministre pour enfin adopter le budget. Il doit désormais trancher la méthode, les ordonnances encore jamais utilisées ou le 49-3 auquel le Premier ministre avait renoncé.
Et cet ultime cadeau au Parti Socialiste, ça provoque la colère des patrons. À 7h40 dans ce studio, la représentante de Croissance Plus, association des patrons, viendra réagir. Et puis à 8h30, c'est la ministre du Budget, Amélie Montchalin, qui sera mon invitée dans le face-à-face.
Députés et sénateurs appelés à se prononcer sur la situation internationale ce lundi, débat sans vote à propos du Venezuela, mais aussi du Groenland, ciblé par Donald Trump. Le président américain menace d'appliquer une surtaxe douanière aux pays qui soutiennent le territoire autonome, 8 pays européens. Prépare la riposte. Une réunion est prévue dans quelques jours avec sur la table la possible activation de l'instrument anti-coercition à la demande d'Emmanuel Macron, arsenal permettant de limiter les importations ou encore de rehausser les tarifs douaniers. Les bovins, finalement, bienvenue au salon de l'agriculture, écarté par la direction. Il n'y a pas de risque, dit la ministre du secteur, évoquant l'immunisation des troupeaux de la dermatose nodulaire. Pas suffisant, Martin Lange a rassuré les éleveurs réticents à l'idée de se rendre porte de Versailles le mois prochain.
Oui, selon Annie Genevard, il n'y a aucune raison sanitaire à l'annulation de la venue des bovins puisque 90% du territoire national est désormais en zone indemne ou en zone vaccinale. Un avis partagé par Jeanne Brugère-Picou, vétérinaire.
Je dis même qu'il n'y a plus de risque. Il faut que l'immunisation se fasse en 3 semaines. Donc on voit bien que dans les zones à risque, l'immunisation est terminée. Je me rappelle avoir envoyé quelques documents. J'avais marqué clap de fin de la DNC le 18 janvier.
Le 18 janvier, soit hier, jour de l'interview de la ministre, pourtant renoncer au salon de l'agriculture cette année reste la bonne décision pour Pierre Debosc. Il élève des veaux dans la Sarthe.
Il faut rester raisonnable par rapport à cette maladie qu'on a du mal encore à cerner et faut rester sur les décisions qui ont été prises par les éleveurs, par respect pour ceux qui ont abattu leur cheptel. Je pense que n'importe quel éleveur est d'accord avec cette décision. C'est beaucoup plus sage.
Annie Genevard qui précise qu'elle respecte le choix des éleveurs terrifiés par les risques qu'ils encourent.
L'ouverture des inscriptions sur Parcoursup cet après-midi est le début du stress pour des milliers de lycéens et des étudiants qui ont jusqu'au 12 mars pour faire leurs vœux.
7h07 sur RMC, le Maroc à terre devant son public.
Une fin de match complètement folle hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a tourné donc à l'avantage des Sénégalais en liesse, vainqueur de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire au terme des prolongations. 1-0, une deuxième étoile pour les Lions de la Teranga que les Marocains rêvaient d'aller chercher chez eux après 50 années de disette à Rabat, la désillusion est terrible, Nicolas Pelletier.
Oui, sous la pluie, tête basse et dans le silence, les supporters marocains accusent le coup à la sortie du stade.
C'est le foot, faut un gagnant, faut un perdant. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a eu ce petit truc en plus. Ils ont marqué un but et voilà, on a raté un pénalty. Le foot, ça se joue à rien.
C'était un film ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils n'ont pas démérité, malheureusement, c'est ce qui arrive dans le football.
La belle histoire marocaine semble être écrite lorsque l'arbitre siffle un pénalty à la 97e minute. Une joie immense, un stade en fusion, mais Brahim Diaz loupe sa panenka. Amine n'en revient toujours pas.
Brahim Diaz qui touche une panenka en finale de CAN pour faire gagner une CAN à son pays depuis des années et des années. C'est inadmissible, il n'y a pas assez de confiance, il ne peut pas se permettre de faire ça.
À domicile, l'échec est immense, le sélectionneur Walid Regragui déçu et désabusé.
À la fin, c'est un scénario hitchcockien avec ce pénalty à la dernière seconde. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Ça fait très mal au cœur parce qu'on était jamais, je crois qu'on n'est jamais passé aussi proche d'une Coupe d'Afrique qu'aujourd'hui.
Un match à oublier pour tout un pays, même si cette rencontre est entrée hier soir dans la légende de la Coupe d'Afrique.
Et puis en Ligue 1, Lyon se replace à la 4e place après sa victoire face à Brest, 2-1 hier soir en clôture de la 19e journée.
C'était le journal de Thibaut Texer.